Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Je vais inviter tous nos auditeurs à s'enjoindre dans une prière silencieuse pour que Mathieu Boulay, notre chroniqueur sport habituel, ne perde pas ses bagages à l'aéroport parce qu'il est en train de revenir de Wimbledon et ne sera donc pas là aujourd'hui avec nous. Par contre, c'est Jessica Lapinski, qui est journaliste sportive également, mais chef de pupitre aussi au Journal de Québec, qui est avec nous. Jessica, bonjour.
Bonjour Alexandre.
C'est un plaisir, écoute, de te recevoir à l'émission et de t'avoir des nôtres. Un premier sujet super intéressant sur lequel tu voulais nous amener ce matin, c'est qu'il y a une toute première personne noire à avoir été embauchée comme directeur général dans la LNH, donc dans la Ligue nationale de hockey, du côté des Sharks de San Jose. C'est Mike Greer. Je t'avoue, je le connais pas beaucoup. Je sais qu'il a déjà été joueur à un certain point, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur M. Greer?
Mike Greer, en fait, Alexandre, c'est ça, il a joué à peu près 300 matchs là, dans la Ligue nationale, notamment avec les Sharks de San Jose au milieu des années 2000. C'est pas un grand joueur de hockey, là, il l'a fait à plusieurs équipes, là, mais après sa retraite, lui, c'est dans le fond, il s'est concentré là, du côté plus management, côté dépistage, c'est ça, il a été recruteur, il a été assistant-entraîneur avec les Devils du New Jersey, donc il a un peu fait ses classes comme ça, là, de l'autre côté du hockey. Donc, jusqu'à être nommé hier directeur général des Sharks, là, clairement une organisation qu'il connaît bien parce qu'il a déjà joué pour eux.
Oui. Et donc, c'est quand même impressionnant parce que là, on parle vraiment un DG, le directeur général. C'est un énorme poste. Puis là, il vit une première comme ça. Mais il va avoir aussi beaucoup de travail sur la planche là, parce que les Sharks de San Jose, là, si je ne m'abuse, c'est pas une équipe que j'ai suivie beaucoup dans les dernières années, mais je sais que il y a quelques années, ils étaient extrêmement compétitifs. Ils ont une réputation de s'effondrer, malheureusement, en série quand il y avait des grosses équipes. Là, ils ont du jeune talent. Il y a Thomas Chertl, je pense, entre autres, qui joue avec eux, qui est excellent, mais il y a une vieille garde qui s'en va. On n'ose pas, je pense, mentionner le mot reconstruction, le mot en R. On ne le prononcera pas. On ne veut pas le prononcer à Montréal non plus, là-bas, à San Jose. Mais là, il y a beaucoup de travail, donc, lui, dans son assiette pour commencer.
Exactement. Puis ça commence sur les chapeaux de roue, là, parce que, bon, j'imagine qu'il y avait beaucoup de travail qui avait déjà été fait par l'organisation. Avant sa nomination, mais c'est le repêchage de la Ligue nationale demain. Donc, sa nomination arrive avec une courte échéance. Il y a aussi les joueurs autonomes là qui s'en viennent. Là. C'est un moment vraiment important dans la saison pour un directeur général qui, justement, on ne voudra pas le mot en R, comme tu disais, là, mais qui veut ajouter des éléments importants à son équipe. Là. Donc, ouais, ça part sur les chapeaux de roue. Beaucoup de travail tout de suite pour Mike Greer. Et Mike Greer, dans sa famille, ils ont une certaine expérience là, déjà là-dedans. Son frère Chris est le directeur général des Dolphins de Miami dans la NFL. Oh. Ouais, donc peut-être qu'il... C'est sûr que c'est deux sports diamétralement opposés, mais peut-être qu'il pourrait aller chercher des conseils là aussi là de la part de son frère.
Ouais. Avant de continuer à parler du repêchage, hein, parce que ça s'en vient, tu le dis là, à grand pas, ça va être demain d'ailleurs ici à Montréal. Mais il y a aussi une autre nomination intéressante, celle d'une entraîneuse adjointe dans la Ligue américaine, Jessica Campbell.
Oui, puis là aussi, c'est une première. Jamais il y avait une femme adjointe entraîneur dans le circuit qui est un peu, ben en fait, avec les clubs écoles de la Ligue nationale. C'est chez les Firebirds de Coachella Valley, qui sont le club école du Kraken.
OK.
Ils vont là disputer leur première saison. Ils n'étaient pas en place la saison passée.
OK.
L'entraîneur là-bas, il est bien connu. Là. C'est Dan Bylsma, l'ancien notamment des Pingouins. Jessica Campbell, elle a 30 ans. C'est une Canadienne. Puis elle a roulé sa bosse pas mal. C'est une ancienne joueuse, mais après, elle a roulé sa bosse pas mal en Europe. Là. Elle a dirigé certaines équipes. Et on l'avait aussi vue comme adjointe au récent championnat du monde de hockey avec l'Allemagne.
OK.
Donc, elle, que de ce que je disais, là, elle saute à pieds joints là, dans ce défi-là. Puis, elle a hâte de coacher ces gars-là. Et aussi, ce qu'elle a dit qui est intéressant, c'est qu'elle a dit, je vais coacher des gars qui ont des filles, qui sont des papas de filles. Et tu sais, j'espère que ça va les inspirer là, par la suite, peut-être à suivre mes traces. Là. Donc, une autre première que je trouvais super intéressante à souligner.
Ben oui, puis il y en a de plus en plus de ces nominations-là, là, de femmes dans non seulement là, oui, au hockey, mais il y en a également dans la NFL. Tu sais, il y a eu également une embauche là, du côté du Canadien récemment. C'est vraiment, ça commence. Hein. Je pense qu'il mieux vaut tard que jamais. Là. C'est un peu tard, je trouve, encore, malheureusement. Mais tout de même, tu sais, je pense que ça va pas tarder à porter ses fruits dans la NFL aussi. Puis, non seulement ça, mais beaucoup de Canadiennes, de Québécoises aussi, qui font des dans ces grandes ligues-là. Vraiment, ça se développe bien ici chez nous. On peut être fiers de nos femmes qui viennent d'ici. Bon, on se repenche sur le repêchage. C'est demain. Kent Hughes qui a fait une conférence de presse pour à peu près rien dire, finalement. Hein? Uh-huh. On n'a rien appris. Carey Price, on ne sait pas plus. Le repêchage, on hésite encore. Mais là, selon certains dépisteurs, ce serait peut-être un bluff du côté de Kent Hughes et peut-être qu'il sait depuis peut-être même longtemps qui va repêcher.
Mmh. Oui. Mais premièrement, c'est à souligner quand même l'effort d'avoir fait une conférence de presse. On demandait plus de transparence à Montréal. On en a pas eu beaucoup plus cette fois-ci. Mais bon, on ne sait pas. On peut-être.
Un E pour effort.
Ouais. Oui, c'est ça. Exactement. Peut-être qu'effectivement, ils ont fait leur choix, mais il y a des recruteurs qui, eux, disent ah, c'est pas vraiment possible. Là, aussi proche du repêchage, c'est un choix qui est tellement important pour l'avenir du Canadien. C'est le premier choix, c'est à Montréal. Là encore, on ne veut pas dire le mot en R, mais on sait que ce choix-là aura un impact là, sur l'avenir proche, mais aussi à long terme du Canadien. Donc, ce serait assez étonnant que l'état-major du Canadien n'ait pas encore pris une décision. Ils ont parlé longuement avec les principaux espoirs, dont Shane Wright. Et c'est ça ce que Pierre Cholette disait hier à l'antenne de LCN. Si vous pouvez aussi retrouver ses propos là dans le journal de Montréal et de Québec ce matin. C'est lui, c'est en plus une stratégie pour susciter un intérêt pour ce repêchage-là qui est à Montréal. Mais il tient peut-être que Ken Hughes aussi voulait se garder une porte ouverte. Là. Il reste encore un peu de temps. Là. Je veux dire, on est à peu près un peu plus de 24 heures du repêchage, mais bon, il voulait peut-être pas non plus se fermer la porte là, à une offre qu'il pourrait pas refuser pour ce choix-là là, aussi. Là. Mais bon, on n'a pas appris grand-chose, mais on a aussi un peu l'impression que c'était du bluff là, et qu'il voulait pas tout dire de sa stratégie.
Ouais, mais ça, t'as raison sur une chose, en tout cas, du moins je trouve, c'est que Kent Hughes, il est capable en ce moment de susciter de l'intérêt. Puis si les amateurs commencent à regarder ça de plus près, c'est une bonne chose. Mais encore plus s'il y a d'autres DG dans la Ligue nationale de hockey qui commencent à regarder le Canadien comme un partenaire potentiel d'échange, que ce soit de joueurs, de choix. Vraiment, là, si on est capable de ramener le Canadien comme ça, là, sur une position intéressante dans le marché, c'est toujours le bienvenu. Un dernier mot en finissant, là, Jessica, on en parle depuis déjà le début de la semaine parce qu'il ne cesse de faire des frasques. Nick Kyrgios, qui est l'enfant terrible du tennis, qui a craché sur un spectateur, qui s'engueule avec les arbitres, qui ne cesse d'avoir des histoires qui sortent sur lui, il manque de respect à tout le monde, mais en même temps, quelle bête de tennis. Mais là, il a été cité à comparaître en Australie en début août pour agression sur son ancienne petite amie.
Oui, c'est ce qu'on croit, en tout cas, ce ne sont pas tous les détails qui sont sortis. Et pour l'instant, Nick Kyrgios n'est accusé de rien. Là. Donc, selon la justice australienne, là, cette citation à comparaître-là ne veut pas dire bon, qu'il est accusé ou quoi que ce soit, mais il est cité à comparaître. Ça tombe vraiment, il n'y a jamais le bon moment pour ça. Et s'il a effectivement posé des gestes répréhensibles, il faut qu'il soit puni pour ces gestes-là. Là. Mais Nick Kyrgios, lui, voyait en ce Wimbledon-là un peu le tournoi de la rédemption. Là, il allait là vraiment. Il y a un tennis qui est parfait pour le gazon, pour cette surface rapide-là. Voyait qu'il y avait des joueurs importants qui n'étaient pas là en Daniil Medvedev compte tenu de la suspension des Russes à Wimbledon. Voyait qu'il y avait des joueurs un peu moins motivés par le fait qu'il n'y a pas de points qui sont accordés à Wimbledon. Il se disait, bah, c'est peut-être ma chance. Aujourd'hui, il joue son match de quart de finale contre Christian Garin. A la chance de se qualifier pour sa première demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem. En conférence de presse, il dit « Je suis un nouvel homme maintenant. » Il y a une époque où mon agent devait venir me chercher dans les bars à 4h du matin à la veille d'un match contre Rafael Nadal. J'ai changé. Et là, ceci arrive. Il n'y a pas de bon timing dans ces histoires-là. Non. Je veux dire, s'il doit être puni, il doit être puni. Là, mais bon, c'est une drôle de fin quand même. Si ça devait prendre fin aujourd'hui son tournoi, c'est une fin de tournoi assez triste. Là.
Ouais, c'est certain que pour un tournoi de rédemption, aller cracher sur les spectateurs, c'était peut-être pas sa meilleure décision aussi, là, quoique, faut être honnête, là, le spectateur aussi, là, en guirlandé pendant le match, là, ça se joue à deux, cette partie-là, mais bon. À voir pour la suite pour Nick Kyrgios. Dans tous les cas, un gros merci à toi, Jessica Lapinski, qui est journaliste sportive. Chef de pupitre également au Journal de Québec. Merci d'avoir été là. On se reparle une prochaine fois.
Merci, Alexandre. Bonne journée.